Every day. Anywhere. Anytime. The Digital Gasbill Channel. Ebenezer International. Your station.
C'est l'heure de l'émission Flash sur la Bible. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, messieurs, bonjour et merci de votre intérêt pour la radio chrétienne Ebenezer International, cette station qui prend à cœur votre édification spirituelle par l'étude de la parole de Dieu, la Bible, par l'écoute des chansons chrétiennes choisies avec beaucoup de soin pour votre plaisir, ainsi que des témoignages de nos différents intervenants qui viennent d'ici et d'ailleurs. Dans cette nouvelle édition de Flash sur la Bible, nous allons étudier les deux épîtres de Paul aux Corinthiens. Je vous rappelle que Flash sur la Bible est une courtoisie de Bible ouverte, qui est un site de l'association Parole Certaine, soutenue par l'association des églises Action Biblique de Suisse. C'est votre ami podcasteur, Franck Doristil, qui vous parle depuis la France métropolitaine, où est basé notre home studio. Dear listeners and friends of the Digital Gospel Journal, I greet you in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ, and I thank you so much for your interest for this ministry, the Digital Gospel Journal. We are glad to be back with this new edition of Flash on the Bible, where we will study together the Book of Corinthians. Don't forget to tell all your friends and relatives to join us at www.radioeben-ezerinternational or to visit our podcast site www.frankradio.podomatic.com, where you will be able to download or listen any episode that you want. Stay in there in peace. Vous écoutez la RCEI à l'heure de Flash sur la Bible. Juste avant de céder le micro à nos amis de Bible ouverte pour la première partie de l'émission, où ils nous parleront de la première épître de Paul aux Corinthiens, écoutons l'artiste Léa Vincent dans un chant intitulé « Yeshua ». Quant à moi, je vous souhaite une agréable écoute. Flash sur la Bible.
Je m'en tracé dans ta main.
sur la Bible, c'est dans le micro à nos amis de Bible ouverte.
La première épître de Paul aux Corinthiens. Peut-être est-ce utile, avant que nous abordions l'étude de ce livre, que vous vous donniez la peine de regarder une carte géographique de la région. La Grèce est divisée en deux. La partie sud, nommée le Péloponnèse, est presque détachée du continent par deux bras de mer. L'un, le golfe de Corinthe, s'ouvre sur la mer Ionienne. L'autre, le golfe d'Égine, s'ouvre sur la mer Égée. Un isthme, large de 2 kilomètres seulement, relie les deux parties du pays. À la fin du siècle passé, l'isthme fut percé d'un canal pour que les bateaux n'aient plus à faire le tour du Péloponnèse, une navigation d'environ 200 kilomètres, plus ou moins périlleuse suivant la saison. Évidemment qu'à l'époque apostolique, l'isthme de Corinthe n'était percé d'aucun canal. Mais les Corinthiens avaient résolu le problème à leur manière. On a retrouvé les vestiges du Delcos, route spécialement aménagée pour le transport des navires franchissant l'isthme. Tirés par des bêtes de somme et aussi par des esclaves, les bateaux glissaient littéralement sur un chemin de pierre, ce qui raccourcissait considérablement la liaison maritime Athènes-Rome. Or, la ville de Corinthe, située à proximité immédiate de l'isthme, tirait de grands profits de sa situation stratégique et de ce transport de navires en particulier. Ses habitants s'enrichirent et vécurent dans les plaisirs. Dans la Grèce antique, la prospérité de Corinthe était réputée, la vie y était hors de prix, au point qu'un adage prévenait les voyageurs « Ne va pas à Corinthe, qui veut ?» Après son séjour à Athènes, l'apôtre Paul se rendit à Corinthe. Sans doute son esprit fut-il attristé en voyant les Corinthiens vivre dans le luxe et l'idolâtrie. Mais Dieu avait son plan et il encouragea son serviteur en ces termes
« Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. »
Actes 18, 9 à 10. Il prêcha d'abord chaque samedi à la synagogue, puis il se tourna vers les païens, enseignant la parole de Dieu dans une maison contiguë à la synagogue. Vous pouvez lire ce récit dans le livre des Actes, au chapitre 18. L'église des Corinthiens fut donc privilégiée dans ses débuts. Et lorsque Paul les quitta, s'embarquant pour la Syrie, il était sans doute confiant à leur égard. Mais plus tard, alors qu'il était à Éphèse, il reçut à leur sujet des nouvelles alarmantes. Il s'empressa alors de leur écrire pour les rendre attentifs à leur danger. C'est cette lettre dont nous vous donnons maintenant un bref aperçu. D'emblée, l'apôtre démasque les rivalités qui divisent les Corinthiens. Chapitre 1, verset 12.
« Chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. »
Quelle était la cause de ces partis pris et des divisions qui en sont résultées? L'orgueil. Les chrétiens de Corinthe étaient sages à leurs propres yeux. Mais la sagesse dont ils se prévalaient n'avait rien de commun avec la sagesse de Dieu, dont Paul parle au chapitre 2, verset 1.
« Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. »
Et plus loin, versets 4 et 5,
« Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. »
Puis, l'apôtre Paul précise aux Corinthiens qu'il leur faut l'Esprit de Dieu pour saisir les choses profondes de Dieu. Chapitre 2, verset 14.
« L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. »
Les premiers chapitres de l'Épître exposent donc les conséquences de l'orgueil et de l'absence de vie chrétienne véritable. Chapitre 1 et 2. Du manque de croissance spirituelle, chapitre 3, de l'esprit de jugement, chapitre 4, du désordre moral, chapitre 5 et 6. la débauche s'était introduite jusque dans les foyers chrétiens, ce qui pousse l'apôtre à présenter le niveau du mariage selon Dieu, chapitre 7. Les Corinthiens se permettaient aussi de participer aux sacrifices dédiés aux idoles, chapitre 8, tout en prenant la scène, chapitre 10 et 11. Aussi, l'apôtre Paul les exhorte-t-il à ne pas créer d'obstacles à l'évangile, à courir pour remporter le prix de la course, chapitre 9, en se laissant avertir par les tragiques expériences d'Israël au désert, chapitre 10. Mais ce n'est pas tout. Une partie des chrétiens de Corinthe, remplis d'illusions sur eux-mêmes, se croyaient très spirituels dans la pratique de certains charismes, du mot grec charisma, don de grâce, qu'ils utilisaient pour leur propre gloire. Tout au début de son épître, l'apôtre avait déjà constaté
« Il ne vous manque aucun don ».
Mais ces charismes auraient dû s'exercer dans l'ordre, la discipline, la dépendance de l'esprit. Parce que des abus et des désordres s'étaient installés dans l'assemblée de Corinthe, Paul éprouve le besoin de traiter longuement du sujet. C'est ce qu'il fait dans les chapitres 12 à 14 de sa lettre. Les dons spirituels dont parle l'Écriture ont été accordés à tous les croyants. Ils sont distribués selon la volonté de l'Esprit, dans l'équilibre et l'harmonie, pour l'édification de tous. Nous lisons en 1 Corinthiens 12.
Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut.
Au début de l'Église primitive, Dieu avait multiplié les charismes, appuyant la prédication des apôtres par des miracles qui étaient à la fois, pour les Israélites, une preuve de la messianité de Christ et pour les païens, la marque d'approbation du Seigneur sur le message apostolique. Mais bien vite, des croyants abusèrent de ces dons spirituels, sans prévalure, tombant même dans des excentricités. Paul discerne le danger et réagit avec vigueur contre ces excès. La première épître aux Corinthiens apporte un enseignement équilibré sur ces problèmes délicats. Parce que la vie psychique des Corinthiens s'était développée au détriment de la vie spirituelle, Paul les engage à laisser de côté ce qui est secondaire pour se donner à l'essentiel.
Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit.
1 Corinthiens 12, 31 à 13.1.
Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour.
1 Corinthiens 13.13. Parce que les Corinthiens abusaient du don des langues, l'apôtre écrit encore
« Dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence que 10 000 paroles en langue. »
1 Corinthiens 14-19 « Aujourd'hui, l'on ferait bien de prêter plus d'attention à ces avertissements apostoliques. En raison de la pauvreté de leur vie spirituelle, beaucoup de croyants insatisfaits se sont lancés inconsidérément dans la recherche des charismes, attribuant à certains dons spirituels, comme celui des langues ou celui des guérisons, un rôle que l'Écriture ne leur prête jamais. Alors que le Nouveau Testament les envisage dans un contexte particulier et avec un but précis, on leur donne même aujourd'hui la valeur de critère de la spiritualité, ces dons étant considérés par certains comme la preuve de la plénitude du Saint-Esprit dans le cœur des croyants. Or, il est très dangereux de penser que le Saint-Esprit prouverait sa présence par des dons spectaculaires. Bien sûr que le Seigneur peut aujourd'hui accomplir des miracles, et il en accomplit certainement. Mais ces miracles sont subordonnés à sa seule volonté et ne sont jamais en contradiction avec les récits et avec les normes de l'Écriture. Malheureusement, l'on prête souvent de nos jours au Saint-Esprit la paternité de manifestations qui sont des séductions spirituelles où le psychisme a sa large part et que le diable exploite à son profit. L'apôtre Jean écrivit
« Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. »
1er épître de Jean, chapitre 4, verset 1. L'apôtre Paul précise les faits à ces mêmes Corinthiens dans sa deuxième épître.
« Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. »
2 Corinthiens 11, 14 à 15. La première épître aux Corinthiens s'achève sur des instructions pratiques, chapitre 16, précédées d'un remarquable exposé de la doctrine de la résurrection, chapitre 15. L'apôtre montre d'abord aux croyants que leur foi doit s'appuyer sur l'Écriture seule, 1 Corinthiens 15, 3 à 4, puis il les conduit au point culminant de la révélation, à savoir l'espérance glorieuse de la résurrection à laquelle tous les croyants rachetés par le sang de Christ auront part. Il écrit
« Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. »
1 Corinthiens 15, 20 à 24. Aurez-vous part à cette résurrection des croyants? Un jour, le grand chef d'orchestre, Michael Costa, interrompit l'exécution publique d'une symphonie dans un concert pour poser la question « Où est le piccolo ?» L'instrumentiste s'était arrêté de jouer, pensant que sa part était superflue au sein des 80 exécutants de l'orchestre. Mais le maestro s'était aperçu de son abstention. « Seriez-vous du nombre de ceux qui professent une appartenance au christianisme sans être nés de nouveau et sans être rachetés par le sang de Christ ? Vous êtes dans l'orchestre, mais votre instrument est muet parce que seul l'Esprit de Dieu qui régénère vous permet de participer à la symphonie céleste. Il est dans le ciel un divin maestro, Jésus-Christ, qui ne veut pas que votre instrument fasse défaut dans le concert des rachetés louant le Seigneur. Mettez-vous maintenant en règle avec Dieu, afin d'avoir part un jour à la résurrection des croyants et à l'éternité bienheureuse avec Christ.
Vous écoutez l'émission Flash sur la Bible. Prenons une pause musicale avec l'artiste John Featherstone avant d'aborder la deuxième partie de l'émission, Là où est l'Esprit de Dieu.
Là où est l'Esprit de Dieu. Là où est l'Esprit de Dieu. Là où est l'Esprit de Dieu. Là est la liberté. Là où est l'Esprit de Dieu. Là est l'éternité. Notre Père est là. Il est le Créateur de ce monde. Notre Père est là. Sur ses enfants, son amour abonde. Notre Père.
Là où est l'Esprit de Dieu,
La deuxième épître de Paul aux Corinthiens.
Flash sur la Bible.
L'on se souvient que l'apôtre Paul avait passé 18 mois dans la ville de Corinthe, qu'il y avait fondé une église, et que plus tard, alors qu'il se trouvait à Éphèse, de mauvaises nouvelles lui étaient parvenues. L'apôtre avait alors rédigé sa première épître aux Corinthiens pour les rendre attentifs à l'orgueil, aux divisions, à l'immoralité qui s'était glissée jusqu'au sein de l'Église, et surtout au désordre que les Corinthiens avaient toléré tant dans la vie de l'Église que dans la pratique des dons spirituels. Puis, cette première épître se terminait sur un magistral exposé de la résurrection et sur des conseils concernant la libéralité et d'autres domaines pratiques. L'on conçoit bien que l'apôtre était inquiet de savoir comment les Corinthiens allaient réagir à ces exhortations écrites. Au bout de quelques mois, d'autres nouvelles des chrétiens d'Achaïe parviennent à l'apôtre. Ses premiers avertissements n'ont pas été acceptés par tous. Son autorité spirituelle est contestée et même sa sincérité est mise en doute. Paul a donc toutes les raisons d'être anxieux, surtout jusqu'au retour de Tite, son messager à Corinthe, 2e épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 12 à 13. Mais Tite rapporte de meilleures nouvelles, et son retour soulage l'apôtre, comme nous le montrent les versets 6 et 7 du chapitre 7.
Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande.
Cependant, si le message de Paul dans sa première épître a touché les cœurs, et que plusieurs Corinthiens se sont repentis, de nombreuses causes d'inquiétude demeurent. Aussi l'apôtre éprouve-t-il le désir de leur adresser une nouvelle lettre. Elle fut vraisemblablement écrite en l'an 57, soit une ou deux années après la première épître. Paul remettra cette lettre à Tite, qui partira de plein gré de Macédoine, 2 Corinthiens 8-17, pour se rendre à nouveau à Corinthe et appuyer de son témoignage les exhortations apostoliques contenues dans cette seconde épître. On y découvre à la fois la souffrance et l'espérance. Paul laisse entrevoir son affliction, chapitres 1 et 2, ses luttes, chapitres 3 et 4, ses gémissements, chapitre 5, ses détresses, chapitre 6, ses déceptions, chapitre 7, ses inquiétudes, chapitre 8, ses périls, chapitre 11, ses douleurs physiques, chapitre 12. Mais pour lui, il n'est pas de tristesse sans consolation. Il n'est pas d'épreuve sans espérance. Il n'est pas de tribulation sans récompense. Et il n'est pas de larmes sans joie. Il n'est pas de pauvreté sans richesse, de combat sans victoire, chapitre 10, de travail d'âme sans gloire, chapitre 11, de faiblesse sans puissance, chapitre 12, 1 à 10, de réprobation sans approbation, chapitre 12, 11 à 21, et de prière sans exaucement, chapitre 13. Les Corinthiens étaient enflés de connaissances. Aussi, Paul ne leur adresse-t-il pas un nouvel enseignement théologique. Il fait bien davantage appel à leur cœur. Peu d'écrits apostoliques dévoilent autant les souffrances de ce serviteur de Dieu, à la fois exposé à des dangers de toute nature et assiégé des soucis que lui donnent les églises, chapitre 11, versets 23 à 29. Les exhortations de ces 13 chapitres ont été forgées dans le creuset d'épreuves douloureuses s'ajoutant les unes aux autres. Aussi Paul ne se défend-il pas à coups d'arguments. Il supplie avec larmes. Il consent à la mort pour communiquer la vie. Il s'identifie à ceux qu'il veut ramener, allant jusqu'à dire
« Qui vient à tomber, que je ne brûle ?»
Chapitre 11, verset 29. Épître pathétique, qui nous fait passer tour à tour des profondeurs de l'adversité au sommet de la gloire à venir, nous faisant pénétrer dans l'intimité d'un homme qui vit tout près de Christ. Paul ne s'est pas improvisé apôtre, il en a reçu le titre et les lettres de recommandation. Je cite ici une expression que vous trouverez au chapitre 3 de cet épître. Ces lettres de recommandation, il les a reçues au travers des coups endurés pour son Seigneur. Il aurait pu se prévaloir de révélations spéciales qui lui furent accordées, voir chapitre 12, versets 2 à 6. Il préfère laisser éclater l'épreuve de son apostolat par une patience à toute épreuve, chapitre 12, verset 12. Jamais l'homme n'est aussi grand que lorsqu'il est par terre. Jamais il n'est si puissant que lorsqu'il se glorifie de ses faiblesses, chapitre 12, verset 9. Quel exemple et quelle instruction profonde pour chacun de nous. Cependant, dans cet épître, l'apôtre ne supplie pas seulement les Corinthiens. Par l'inspiration du Saint-Esprit, il s'adresse aussi à l'homme moderne, cet homme souvent imbu de connaissances comme les Corinthiens, mais pourtant en quête de certitude quant à l'éternité. Cet homme qui est le jouet d'une société pécheresse et qui souvent en moissonne les fruits amers. La connaissance s'est accrue, mais elle n'a supprimé ni les larmes, ni la peur, ni le désespoir. Vivez-vous dans l'angoisse ou dans les craintes à cause des événements contemporains? Êtes-vous inquiet pour votre avenir? Ne sauriez-vous pas où vous accrocher? Permettez-nous de vous lire un verset du chapitre 5 de cette deuxième épître aux Corinthiens.
Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu.
pourquoi l'apôtre Paul mentionne-t-il la nécessité d'être réconcilié avec Dieu? Parce que l'homme s'est rendu ennemi du Dieu qu'il aime. Le péché l'a fait passer dans le camp adverse. Nous sommes, je suis, ennemis de Dieu par nature. Le péché est l'obstacle qui nous coupe, qui me coupe d'avec Dieu. Notre péché, mon péché, méritait un châtiment. La justice de Dieu avait décrété
« L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. »
Par le péché, la mort a frappé tous les hommes. Mais Dieu est venu à notre rencontre. La réconciliation de la créature humaine avec son Créateur est rendue possible désormais grâce à la mort expiatoire du Fils de Dieu à la croix du calvaire. Seul le sang d'un homme parfait, sans tache, sans péché, pouvait expier notre péché. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, conçu miraculeusement par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, séparé des pécheurs et du péché, a expié nos fautes. Paul déclare en 2 Corinthiens 5, verset 21,
« Celui qui n'a point connu le péché, Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. »
Jésus-Christ s'est offert volontairement pour endurer le châtiment que je méritais. En devenant péché pour moi, Christ a reçu tous les coups que je devais recevoir. Mon péché lui a valu la mort, et une mort horrible, cette mort de la crucifixion, dont les souffrances excédèrent tout ce qu'un homme peut supporter. Mais puisque Jésus-Christ a enduré le châtiment à ma place, il m'a libéré, par là même, de toute condamnation. C'est pourquoi l'apôtre a ajouté
« Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. »
Autrement dit, vous et moi, injustes par nature, nous pouvons devenir justes aux yeux de Dieu. Dans le même chapitre, au verset 17 et 18, l'apôtre précise
« Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. »
Un homme avait de graves problèmes. Ne trouvant aucune solution, il résolut d'en parler à son pasteur. Il trouva ce dernier à son domicile, prêt à partir en voyage. Il l'accompagna donc à la gare. La conversation se prolongeait encore sur le quai de départ lorsque le contrôleur s'écria « En voiture, s'il vous plaît !» Alors notre homme, saisissant par le bras le pasteur déjà sur le marchepied du wagon, le supplia « N'avez-vous pas une parole de Dieu pour moi dans ma situation ?»« Si, répondit le pasteur, lisez dans votre Bible Ésaïe 53, 6 et réfléchissez aux deux mentions du pronom « nous ».«
Nous étions tous errants comme des brebis, et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur Christ, l'iniquité de nous tous. »
De retour chez lui, cet homme trouva le texte dans sa Bible. Il le lut avec soin, comprit le sens du message et saisit spontanément la grâce de Dieu. Nous sommes pécheurs, mais Christ est mort pour nous. Je suis pécheur, mais Christ est devenu péché pour moi, pour me réconcilier avec Dieu. C'est pourquoi le salut qui nous est proposé, que dis-je, qui vous est proposé maintenant en Jésus-Christ, ce salut est complet, parfait, définitif et éternel. Dieu désire vous réconcilier avec lui par la mort de son Fils. Décidez-vous en cet instant. Si vous avez une Bible, ouvrez-la au chapitre 5 de la deuxième épître aux Corinthiens et relisez les versets 17 à 21. Que la parole divine vous apporte à vous la certitude de la vie éternelle et la paix du cœur, cette paix que peut-être vous cherchez depuis si longtemps.
Et juste avant la fin de notre programme, écoutons le groupe Exo dans un morceau intitulé « Règne en moi ». Bonne écoute.
Nous marchons couronné d'éclats. Soyons sur la terre, messagers de joie.
Bible.
Chers amis à l'écoute, à ce nouveau numéro de Flash sur la Bible qui nous a permis d'étudier ensemble ces deux lettres de Paul aux Corinthiens. Je vous rappelle que Flash sur la Bible est une courtoisie de Bible ouverte qui est un site de l'association Parole Certaine soutenue par l'Association des Églises Action Biblique de Suisse. Nous tenons à remercier toute l'équipe de Bible ouverte pour sa collaboration avec ce ministère, la RCEI. Nous remercions également tous les artistes qui nous ont offert leur chant tout le long de ce programme, tels que Léa Vincent, John Featherstone, le groupe EXO, Danny et Moïse Utrel, à qui nous devons notre générique, ainsi que l'artiste Armando Gomez, avec lequel je vais vous laisser. Et si ce programme vous a plu, si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions, soyez libre de nous les envoyer par cette adresse email francradio@aol.com. Je répète, francradio@aol.com. Ce me serait un grand plaisir de vous lire, de savoir ce que vous pensez de ce travail et également de répondre à certaines de ces questions que vous avez autour de la Bible. Et à vous tous qui étiez branchés depuis le début de ce programme jusqu'à cette dernière minute, je vous remercie sincèrement de votre intérêt et vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de Flash sur la Bible. C'était pour vous servir, votre ami en Jésus-Christ, Franck Doristil, qui vous dit une fois de plus merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment et au revoir. C'était Flash sur la Bible, une émission d'études bibliques que vous propose la RCEI, The Digital Gospel Channel, your station.
C'est mon bien, c'est mon bien. Oh, oh, oh. M'approcher de Dieu. Aujourd'hui et demain, m'approcher de Dieu, oui c'est mon bien. M'approcher de Dieu, faire des pas dans la nuit, sans douter de lui, c'est mon bien. C'est mon bien, oh c'est mon bien, c'est mon bien. Oui c'est mon bien, m'approcher de Dieu, oui c'est mon bien. M'approcher de Dieu, oui, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, loin des choses futiles, et rester tranquille, oui, c'est mon bien. M'approcher de Dieu pour méditer sa loi et entendre sa voix, c'est mon bien. C'est mon bien, oh, c'est mon bien, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, oui, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, oui, c'est mon bien. C'est mon bien, oh, c'est mon bien, c'est mon bien. Oui, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, oui, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, oui, c'est mon bien.
Allez, tous ensemble,
c'est mon bien. C'est mon bien, oui c'est mon bien. M'approcher de Dieu, oui c'est mon bien. M'approcher de Dieu, oui c'est mon bien.
On y va.
M'approcher de Dieu pour répandre mon âme et sécher mes larmes, c'est mon bien. M'approcher de lui, contempler son amour, vivre pour toujours près de lui. C'est mon bien, oh c'est mon bien, c'est mon bien. Oui c'est mon bien, m'approcher de Dieu, oui c'est mon bien. M'approcher de Dieu, oui c'est mon bien. C'est mon bien, oh c'est mon bien, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, oui c'est mon bien. M'approcher de Dieu, oui c'est mon bien. C'est mon bien, oh c'est mon bien, c'est mon bien. Oui c'est mon bien. M'approcher de Dieu, oui c'est mon bien. M'approcher de Dieu, oui M'approcher de Dieu, oui, c'est mon bien. M'approcher.